Vous écoutez
RMC. RMC.
Jusqu'à 8h.
Ça m'a fait comme une décharge électrique, dites-en.
Votre maison, François Sorel.
Christian PC.
Toi, tu me fais de l'électricité. Tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs,
vous l'avez reconnu ou pas?
Oui, je l'ai reconnu, évidemment.
Bien sûr. Christian, mettez les doigts dans la prise pour voir ce qui se passe. Non, mais allez-y. Elle est débranchée. Bon, alors attention, plus sérieusement les amis, nous allons parler de la sécurité de notre installation électrique. On prend ça à la légère, mais bon, c'est un sujet grave, bien sûr. Et on attend vos questions, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, n'hésitez pas à nous appeler. Mais juste avant tout cela, j'aimerais quand même vous rappeler, et je vous l'avais promis, que je vous offre un beau cadeau.
Ah oui, allez-y, la boîte
d'outils. Attendez, alors je vous demande pas de trafiquer le panneau électrique avec, ça c'est pas bon signe, il faut pas faire ça.
Le panneau électrique.
Le comment on appelle ça, l'armoire,
le tableau.
Car sur RMC, je vous offre une caisse multi-outils Makita. Voilà, elle est composée de 83 pièces,
dites-moi,
tournevis, clés, etc., qui sont rangées sagement dans une mallette pratique à transporter. Donc, si vous voulez remporter cette boîte à outils complète, vous nous envoyez dès maintenant maison, tout simplement, au 73216. Maison par SMS au 73216. Bonne chance.
Alors, on va parler électricité avec Florence Delettre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Promotelec. La définition de Promotelec, en gros?
Pour faire simple, on est engagé dans un habitat sûr, connecté, responsable, performant. Voilà.
Vous êtes une association.
On est une association.
Vous n'avez pas de, il n'y a pas derrière d'intérêt économique, on va dire.
On a une filiale aussi qui s'appelle Promotelec.
Voilà, ça, c'est voilà. Autre chose. C'est pour la certification des maisons.
C'est ça.
On va dire. Mais des logements aussi, hein,
pas seulement. Des
appartements, je veux dire, parce que.
Logements au sens large.
Voilà.
Donc votre mission, c'est d'informer, en fait.
C'est de conseiller, c'est donner de la visibilité sur la réglementation aussi.
Mm-hmm. En termes de sécurité, pour faire des économies d'énergie, j'imagine aussi. Voilà, avec tout l'aspect connecté, qui arrive maintenant dans la maison, il y a vraiment des solutions sympathiques pour économiser de l'argent.
Voilà. Alors lorsqu'on fait un peu un bilan, lorsqu'on va chez les gens, lorsqu'on peut y arriver, on constate souvent que le bilan électrique est mauvais. Alors, depuis quelques années, il y a le diagnostic électrique obligatoire, comme il y a le diagnostic amiante, comme il y a différents diagnostics, donc avant la vente et la location. Alors, vous sortez juste d'une étude, les gens sont quand même assez sensibilisés apparemment à cela. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce diagnostic? Parce qu'il n'est pas contraignant.
Il n'est pas contraignant, mais par contre, il a un avantage, c'est de voir la réalité des choses. La réalité des choses fait qu'il y a quand même des travaux à faire, et c'est ce qui est important, c'est-à-dire qu'il est connu, parfois méconnu aussi, donc il faut continuer à faire ce diagnostic pour pouvoir mettre en sécurité la maison.
Oui, alors ça veut dire que lorsqu'on va louer ou lorsqu'on va vendre son logement, on va faire ce diagnostic obligatoire. Qu'est-ce qui va en résulter? Vous avez un rapport.
Vous avez un rapport et puis on vous donne les points critiques ou non critiques de l'état de l'installation électrique de votre logement.
Christian, à vue d'œil, pour tous ceux qui nous écoutent, qui habitent dans une maison qui a 10, 20, 30, 40, je ne sais pas combien, à quel moment on doit se dire, tiens, mon installation électrique n'est plus aux normes?
Alors,
est-ce qu'il y a des signes visuels qui font où il faut vraiment prendre le problème à bras le corps?
Alors, je serais tenté de dire d'abord l'état du tableau électrique avec donc maintenant un certain nombre de coupes-circuits et de sécurité avec notamment des disjoncteurs. Le fait que l'installation soit raccordée à la terre, ça c'est absolument essentiel, que toutes les prises soient raccordables à la terre.
Ça, on le voit comment?
Bah, par exemple, vous savez, il y a dans une prise, vous avez des alvéoles et puis vous avez une broche qui sort.
D'accord.
Pas forcément grosse, c'est normal. Si vous n'avez pas de broche, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de raccorder à la terre. Attention, il y a des petits malins qui changent avant de vendre leur appartement, qui changent leur prise, qui mettent des prises avec des alvéoles et donc cette broche. Et puis en fait, il n'y a pas de raccordement derrière.
Et donc là, ça ne sert à rien, bien évidemment.
Ça ne sert à rien. Alors,
ça sert à quoi, une installation qui est branchée à la terre?
Tout simplement, vous voyez, vous avez les fuites de courant là, qu'il faut y avoir quand il y a un défaut. Et au lieu de le courant, je vais faire un peu de la vulgarisation, hein, au lieu de vous électriciser, c'est-à-dire que vous prenez le jus, et en fait, ben, le jus, il va à la terre.
D'accord.
Et voilà. Quand il va à la terre.
Donc c'est un problème de sécurité.
Bien sûr.
Totalement.
Et quand il va à la terre, s'il y a un disjoncteur différentiel en tête de circuit et en tête de l'installation, l'installation disjoncte automatiquement.
Voilà.
Avant même que vous ayez touché quoi que ce soit.
D'accord.
Lorsque se produit le retour à la terre, paf, l'installation disjoncte.
Christian, en parlant d'années ou de dizaines d'années, une installation commence à être obsolète à partir de combien d'années ?
Alors moi, je veux dire une dizaine d'années, c'est à peu près la règle.
Oui. C'est-à-dire que je suis dans une maison qui a été construite en 2010.
Oui.
J'ai une installation électrique obsolète.
On n'a pas une installation obsolète. On va dire qu'on n'a pas une installation qui est performante
et
en sécurité absolue.
Voilà.
Non, mais obsolète, dangereuse, je voulais dire.
Non, pas dangereuse, parce que de toute façon, les constructions déjà depuis plus de, enfin, tout ce qui est depuis plus de 15 ans, théoriquement, sont aux normes. Donc c'est au-delà. C'est ceux qui ont eu un permis de construire avant 1975. Donc déjà, il faut déjà être très vigilant. Et puis après, il y a le matériel.
75, c'était il y a 45 ans.
Mais là, déjà, coup, vous avez des disjoncteurs. L'installation qu'il faut absolument refaire.
Il y a eu des grandes dates, en fait, dans l'aménagement de la maison.
En gros, jusque dans les années 60, on est avec des coupes-circuits à plomb. Vous savez, avec le porte-fusible, la broche en porcelaine.
Donc le fusible qu'on enlève, qui cramait.
Une horreur.
Voilà.
Une horreur.
Ça il en faut
absolument
plus.
Disparaître.
D'accord. Ça, c'était jusqu'à quand, ça ?
Les années 60.
D'accord.
À partir des années 60, on commence à avoir des fusibles à cartouche, dans des puits, avec un capuchon fileté, hein, qui va donc, déjà, c'est beaucoup mieux. Déjà, c'est beaucoup mieux. Mais ça n'a pas l'aspect sécuritaire du retour à la terre et du disjoncteur qui fait sauter. Donc, et après, les grandes dates, c'est les années 70, on va dire 80, où là, vous commencez à avoir des installations qui sont avec des disjoncteurs divisionnaires.
Et puis après aussi, vous avez aussi l'évolution de la norme. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, au début, on parlait d'objets connectés, etc. Il faut aussi bien vérifier que votre installation, elle supporte toute cette technologie nouvelle qui va arriver et aussi bien en puissance. Alors, on n'est pas en sécurité électrique, mais là,
c'est
votre contrat
si elle est connectable,
mais
etc.
Si elle est connectable, voilà. Parce que les dangers sont énormes. Hein. On parle quand même de 50 000. Enfin, si l'installation n'est pas correcte, si la mise en sécurité n'est pas là, s'il y a un des six points là qui font défaut, mise à la terre, vétusteté, fil apparent, pas de disjoncteur différentiel, etc. C'est 50 000 incendies par an. Et puis c'est aussi 400 000 dommages sur la personne.
Oui, donc c'est quand même des blessés.
Derrière, on parle de technique là, mais l'électricité, elle est pas dangereuse. Le seul truc, c'est la façon de bien l'utiliser, et puis que les gens soient responsables, et que les propriétaires, bailleurs aussi, soient responsables. Parce que là, c'est pas faire du diagnostic pour du diagnostic, c'est que derrière, la responsabilité, celui qui ne fait pas les travaux sur ces points-là, et que s'il y a un accident après, bien évidemment, sa responsabilité est mise en cause.
Bien sûr.
Alors, oui, attendez, ça c'est très important ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire que s'il y a un diagnostic électrique qui révèle un certain nombre de défauts, il n'y a aucune obligation à faire les travaux. Ça, c'est pas normal, je trouve. Il n'y a aucune obligation à faire les travaux avant de vendre son bien. Mais vous êtes en train de me dire que si j'ai vendu ce bien avec une installation manifestement défaillante, est-ce qu'il y a une responsabilité du vendeur ? Peut-être du bailleur, en revanche. Mais du vendeur, il n'y a pas de responsabilité puisque l'acheteur a été mis au courant, c'est le cas de le dire, de ce qui n'allait pas dans l'installation.
Oui, alors... Il y a, si vous êtes un propriétaire bailleur et que vous louez un logement, vous devez mettre à disposition un logement décent.
Oui,
donc, dans le côté décence, il y a aussi décence et c'est la loi Allure. Donc après, vous avez bien évidemment, vaut mieux que le propriétaire fasse, parce qu'en plus, bon, il s'agit pas de refaire toute l'installation électrique. Là, on est bien sur la mise en sécurité de l'installation électrique. Donc, le propriétaire, d'ailleurs, on voit bien, hein, 67% réalisent, ou 63%, je crois, de l'enquête montre, réalisent des travaux. Donc voilà, il en reste...
Oui, bon, il y a une majorité, donc vous êtes en train de me dire qu'il y a une majorité de bailleurs, donc de propriétaires qui louent leur appartement, qui, lorsqu'ils ont un diagnostic qui fait apparaître des failles dans la sécurité, vous êtes en train de me dire qu'il y a une majorité qui font des travaux.
Oui, il y a une majorité, il y a 63%.
Alors qu'avant, ils s'en foutaient complètement.
Voilà, ils faisaient pas, parce que l'électricité fait peur quand même. Donc peut-être que c'est là aussi la première chose qu'on met aux normes. Maintenant, ici, il ne fait pas et que le locataire, alors déjà, bien sûr, on veut dire, il peut ne pas louer. Mais bon,
peut-être. Oui, voilà. On pourrait peut-être imaginer ne pas pouvoir louer si c'est pas aux normes.
Ça ne m'appartient pas, mais. Oui,
mais moi, ça m'appartient de le dire.
Et puis après, le locataire, il peut exiger. Alors, exiger, il y a les commissions départementales de conciliation pour un règlement à l'amiable. Et puis après, on passe à la vitesse supérieure, le tribunal.
Donc, oui, alors, ça, c'est important. Ça veut dire que, parce que moi, j'ai souvent ce type de questions. Si un locataire constate que son installation est manifestement obsolète. Parce qu'il y a des locataires, on parle là du diagnostic pour ceux qui viennent de louer un appartement. Mais il y a des gens qui sont locataires depuis 50 ans. Hein. Mmh. Et s'ils ont l'installation qui a 50 ans, elle est forcément hors norme. Et elle est même dangereuse. Oui. Donc, alors, la procédure, c'est quoi? C'est d'abord, peut-être, envoyer une lettre. D'abord, la conciliation.
D'abord, une lettre. Déjà, parler à son propriétaire.
Oui, ça met des choses.
Il répond pas, une lettre avec accusé de réception pour le notifier. Et puis là, ça peut marcher. Et puis après, on fait vers la commission départementale de conciliation.
Donc on s'adresse à qui là?
On s'adresse au servicepublic.fr. Là, vous avez ça. Et puis après, bien évidemment, ça marche pas. Et là, on rentre avec le tribunal d'instance.
D'accord. Tribunal d'instance, enfin bon, ça va devenir tribunal tout court maintenant. Là, tout court, hein. Avec la, donc il faudra peut-être aussi. Le problème, c'est qu'il va peut-être falloir le recours à un avocat. Ça coûte des sous, tout ça.
Sûrement.
C'est un peu difficile.
C'est dommage d'en arriver là, mais pour un sujet aussi sérieux.
On revient dans un instant. 8h-20 sur RMC. Nous recevrons ce matin la directrice générale de Promotelec, Florence Delettre. Vous avez des questions concernant les installations électriques? C'est le moment ou jamais. Appelez-nous 3216. Laissez-nous votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, ou alors via Direct Studio, là encore sur votre smartphone, vous pouvez nous joindre à tout moment avec toujours votre portable pour qu'on puisse vous rappeler dans la minute.
Ça vaut mieux.
A tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison. On évoque encore pendant quelques minutes la sécurité de votre installation électrique avec l'actualité qui est quand même assez dramatique. On se rend compte qu'il y a une recrudescence, Christian et Florence Delette qui est notre invité, d'électrocution dans les salles de bain de personnes qui rechargent leur téléphone. C'est d'ailleurs un auditeur qui s'appelle Jean-Marc qui nous dit ça sur Direct Studio. Alors ça paraît évident, mais surtout ne pas utiliser un chargeur de téléphone dans la salle de bain.
Ça va de soi, et surtout ne pas, alors là ce sont les précautions basiques, dans toute pièce humide, il y a un certain nombre de contraintes techniques. Il y a par exemple ce qui s'appelle, alors on a parlé de la mise à la terre, mais dans une salle de bain, il y a ce qu'on appelle la liaison équipotentielle. C'est un terme un peu jargonesque, je dirais, mais ça veut dire que par exemple toutes les parties métalliques dans une salle de bain, par exemple une fenêtre en aluminium, doivent être accordées à la terre pour éviter justement tout risque d'électrocution. Dans cette affaire des téléphones portables, j'ai pas moi la relation des accidents qui se sont produits, mais a priori, il est clair que si on est dans sa baignoire et qu'on va rechercher une prise avec les pieds humides, avec un seul encarnage, et qu'on va brancher un chargeur de téléphone, eh bien on a tous les risques de s'électrocuter. Avant le transfo. Moi, je pense pas que là, on puisse avoir des risques.
Mais on va pas, voilà, mais on vous conseille même pas de recharger votre téléphone quand vous êtes dans la baignoire. Hein.
Et puis, évitez aussi de mettre des rallonges. C'est-à-dire que si même l'installation est conforme, ne mettez pas la rallonge pour prendre votre bain avec le portable en
charge. Si on éloigne une prise d'une baignoire, c'est fait exprès,
en fait.
Pas quelqu'un qui s'est trompé en construisant la salle de bain.
Il y a des zones aussi dans la salle de bain en fonction de la norme. On va pas avoir le temps ici de les présenter. Je mettrai le schéma Promotelec sur la page Facebook de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller voir exactement les règles d'installation dans la salle de bain.
Mm-hmm. Dernière question pour Florence. Puisqu'après on...
Oui, dernière question. Je sais pas, le coût d'une rénovation par un professionnel patenté, par un électricien.
Alors, je vais pas faire une réponse de normande, mais je vais simplement vous dire que ça peut varier, bien sûr, en fonction de la taille de la maison, en fonction de ce qu'on doit changer. Je vais dire peut-être si on mettait le bout à bout là, les fameux points de sécurité entre la prise électrique et à changer.
On peut aller voir sur votre site.
On peut aller voir sur notre site.
Tu veux dire c'est promotelec.com.
J'en sais rien, .com, à vrai dire. Pardon.
On va essayer .com, je pense que ça devrait marcher.
Voilà, et donc on peut dire qu'entre 1000, enfin inférieur à 1000, enfin entre 200 euros et 2000 euros.
Voilà.
D'accord. Mais bien sûr, attention, hein, la région, la ville.
Et ça dépend, s'il faut simplement remettre à jour le tableau ou s'il faut, par exemple, changer tous les conducteurs.
Voilà, tout à fait.
On trouve encore des installations avec des conducteurs avec isolant textile des années 1930 qui sont complètement cuits, avec des dominos, même pas avec des épissures. Vous savez, les épissures, les liens qu'on faisait avec du ruban collant, le fameux Chatterton. Tout ça, c'est à prohiber.
Mais si on parle de mise en conformité, bien évidemment, là, c'est un autre prix.
Merci Florence Delette pour tous ces conseils. Rappelons que vous êtes directrice générale de Promotelec.